j'aimerais que nous fassions ensemble une lecture dans le Nouveau Testament, seconde partie de la Bible. Et je vous propose de faire cette lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1er. Nous lisons ceci. Jean chapitre 3, verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, puisqu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Voilà, donc tout ce texte est un dialogue qui nous est rapporté entre le Christ et Nicodème, un homme qui est en réalité un dignitaire juif, un rabbin en quelque sorte, qui va venir trouver le Christ pour lui poser plusieurs questions. Et nous allons le voir à travers ce texte qui peut sembler difficile sous certains rapports. Il y a certains versets qui ne sont pas faciles à comprendre. Nous allons essayer de les expliquer. Bien, finalement, Dieu nous parle de ce qu'il voudrait faire dans notre vie. C'est tout le plan de salut, c'est l'amour de Dieu que le Christ révèle ici. C'est la volonté de Dieu le Père de donner la vie éternelle. C'est le don béni que Dieu fait à tous les hommes, puisque nous avons lu dans ce verset important de la Bible, dans ces paroles que Christ prononce à l'égard de Nicodème, cette déclaration, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais pour qu'il ait la vie éternelle. Donc, à travers ce dialogue, cet échange, c'est un appel qui nous concerne, que nous découvrons à travers ces pages de l'Évangile. Je vous propose de voir trois choses dans ce texte cet après-midi. Premièrement, nous découvrons dans cet échange qui rassemble Jésus et Nicodème, cette réalité que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme ne peut pas produire ce qui est nécessaire à son propre salut. Et puis, une deuxième pensée que nous découvrons, c'est celle de l'amour de Dieu. Dieu nous aime et il s'approche de nous, qui que nous soyons, quel que soit notre parcours. Et si nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, Dieu qui nous aime, lui, désire nous donner le salut. Et puis une troisième pensée, comment parvenir au salut? Comment recevoir ce que Dieu nous donne? Alors l'incapacité de l'homme à se sauver lui-même, c'est quelque chose que l'on voit très nettement dans cet échange entre Jésus et Nicodème, quand on s'interroge un peu sur la personne de Nicodème. Qui était-il, cet homme ? Nicodème, hein, c'est un nom curieux. Voilà, cet homme, Nicodème, était en réalité un chef des Juifs, c'est-à-dire qu'il avait un rang élevé au sein du peuple juif. C'était un docteur de la loi, un spécialiste de la Bible, un théologien, dirions-nous, un homme qui avait beaucoup d'ascendant sur la société de l'époque, puisque la société d'Israël existait depuis des siècles comme une société théocratique, et un homme qui enseignait la Bible, l'Ancien Testament, puisque c'était la seule partie connue alors, c'était quelqu'un que l'on respectait, on lui vouait un grand respect, et il était consulté, cet homme, pour des questions religieuses, non pas lorsque les gens s'interrogeaient là par pure curiosité, mais parce que c'était quelque chose d'important. C'était à la base de la vie d'Israël, on venait trouver Nicodème, on le respectait, et le savoir de cet homme, sa réflexion, son sens moral servait là d'étalon pour les gens qui venaient le consulter. Alors quelqu'un dira, si un homme comme ça ne peut pas être sauvé, si un homme comme ça n'est pas automatiquement reçu de Dieu, qui peut l'être? Et précisément, ce texte nous montre que malgré toute son érudition, malgré sa position élevée dans la société juive, malgré sa connaissance irréprochable de la lettre, c'est-à-dire de ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, bien Nicodème avait besoin, comme chacun d'entre nous, du salut de Dieu. D'ailleurs, Nicodème est un homme qui, malgré son grand savoir, malgré sa pratique religieuse, certainement très sincère, sent que quelque chose lui manque. Pour être docteur de la loi, pour renseigner, pour avoir sa position, il fallait un certain âge en Israël. On ne pouvait pas acquérir ce rang, cette position, sans une certaine expérience. D'ailleurs, se basant sur certains textes de l'Ancien Testament, les docteurs de la loi n'étaient admis dans leur fonction, en général, qu'à partir de 50 ans. Or, voilà que Nicodème va éprouver le besoin d'aller voir le Christ. Or, on le sait, par les évangiles, le Christ, quand il a commencé à enseigner, était âgé d'environ 30 ans. Pour aller voir cet homme jeune, qui était nettement son cadet, il fallait que dans le cœur de cet homme, Nicodème, se soit passé quelque chose. Alors oui, là, on le voit assister à des miracles, puisqu'il introduira cette conversation en disant au Christ, mais personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc il est impressionné, et on le comprend, par les miracles qu'accomplit le Christ. Et puis aussi, Nicodème est un homme qui aime la vérité, certainement au-delà des miracles. Nicodème a eu l'occasion d'entendre parler Jésus-Christ, et les paroles de Jésus ont fait son chemin dans sa conscience, dans son cœur. Il nous est dit de bien des auditeurs de Jésus qu'ils étaient impressionnés par la manière dont il enseignait, si différente de celle des scribes, non pas nécessairement que Jésus accompagnait ses discours d'un art oratoire particulièrement notable. Mais il y avait dans la vérité qui accompagnait sa parole, la manière dont il parlait, parce qu'il parlait de la part de son Père Céleste, dans la conviction, une autorité qui ne trompait pas ceux qui aimaient la vérité. Un jour, dans une synagogue, il nous est dit que les auditeurs étaient impressionnés parce qu'ils étaient frappés de sa doctrine, parce qu'il enseignait avec autorité et non pas comme les scribes. Un autre jour, c'est l'évangile de Jean qui nous le rapporte, alors qu'on envoie des huissiers pour se saisir de lui et pour l'arrêter, il nous a dit que ces hommes, quoique venus dans cette intention, vont repartir en disant « mais jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Nicodème, en tout cas, donc a reconnu dans les paroles de Jésus, dans son enseignement, qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu. Et puis Nicodème a l'humilité de reconnaître que cette chose qu'il discerne, cette influence qu'il discerne dans l'enseignement du Seigneur, ça correspond à quelque chose qui lui manque. Et à cause de cela, il va venir le trouver. Et c'est une bonne chose, finalement, lorsque l'homme, quelles que soient ses circonstances, reconnaît qu'il lui manque ce qui vient du ciel. Vous voyez, malgré notre religion, malgré notre connaissance exacte, peut-être, de la Bible, bien, s'il n'y a pas cette relation personnelle qui s'est établie entre nous et le Christ, c'est vrai qu'il nous manque quelque chose d'important. Il nous manque en réalité l'essentiel, comme on va le voir. Et est-ce que Nicodème a parfaitement conscience du fossé qui le sépare de Dieu, malgré sa connaissance? Nicodème a-t-il conscience de l'importance de ce qui lui manque? Je ne le sais pas. Mais il a conscience, il est assez honnête pour cela, qu'il lui manque quelque chose et que cette chose vaut la peine d'être recherchée. Alors il va se mettre en route et Nicodème va aller trouver le Christ pour échanger avec lui, pour lui parler, pour entendre quelque chose de sa bouche. Ça lui demande de l'humilité, Encore une fois, cet homme éminent, reconnu, âgé, va se rendre vers cet homme jeune, qu'est le Christ, à ce moment-là, et il va lui poser la question, « Seigneur, personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient de Dieu. » Et, encore une fois, on voit à travers toutes ces choses que, malgré toutes ses qualités, malgré sa connaissance, malgré sa position, et même malgré sa sincérité, Nicodème a besoin, au-delà de toutes ses pratiques, au-delà de tout ce qu'il est, il a besoin qu'une œuvre divine s'opère dans son cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai de tout être humain, de tout homme. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va lui faire comprendre quand il va lui dire « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit ». Que signifient ces paroles? Elles signifient que tout ce qui vient de nous, aussi admirable que ce soit, aussi valable que ce soit, et Dieu ne nie pas qu'il y ait en nous des choses valables, bien, toutes ces choses ne peuvent pas à elles seules nous ouvrir quelque accès que ce soit au ciel. Et ça, c'est une réalité que nous sentons bien, nous en sommes conscients. Lorsque des gens très sincères, avec leur religion, avec leurs efforts, tentent de prier, de pratiquer une religion, immanquablement, il y a au fond de leur conscience cette voix qui leur dit, parfois de manière confuse, « Il te manque quelque chose. Voyez, ce que tu cherches dans ta religion, il y a quelque chose qui manque. » Et Nicodème, donc, il va auprès de Christ, auprès de Jésus-Christ, pour lui exposer ce besoin. Il ne l'expose pas en ces termes. Il parle comme un homme un peu curieux. Personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient de Dieu. Il ne va pas plus loin. Mais au fond, cette simple parole, elle témoigne de sa démarche, d'une démarche sincère, c'est une véritable recherche. Or, Jésus dit dans l'Évangile, celui qui cherche trouve. Jamais Dieu ne laissera un homme, une femme, un jeune homme ou une jeune fille réellement désireux de le trouver sans se manifester à lui. Ça, c'est extraordinaire, mais on peut l'affirmer avec une pleine assurance dans la mesure où c'est la Bible qui le dit. Celui qui cherche trouve. Vous voyez, cherchez Dieu. Vous me chercherez, dit Dieu, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voyez, et encore, demandez, et l'on vous donnera. Frappez, et l'on vous ouvrira. Et le Christ ajoute, parce que on donne à celui qui demande. Parce que celui qui cherche trouve. Et parce que l'on ouvre à celui qui frappe. Alors Jésus va parler, il va prendre la parole, et il va montrer à Nicodème que ce que lui-même ne peut pas apporter, ce qu'il ne peut pas faire valoir devant Dieu pour être sauvé, Dieu et Dieu seul est capable, et non seulement capable, mais il est désireux de le lui donner. Et Dieu, cet après-midi encore, est non seulement capable, mais encore désireux de nous sauver. La volonté de Dieu, c'est que nous trouvions auprès de lui la paix du cœur, la paix de la conscience, et qu'une véritable relation soit rétablie entre lui et nous, qu'il devienne notre Père céleste et que nous ayons conscience de lui appartenir et d'être appelés ses enfants. Alors, l'amour et le salut de Dieu. Le Christ va presque interrompre Nicodème, je ne sais pas si vous l'avez noté, lorsqu'il lui dit, sans répondre à sa question, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est une parole qui pouvait choquer Nicodème. D'abord parce qu'il ne la comprend pas, et ensuite parce qu'elle laisse entendre qu'il n'est pas entré dans le royaume de Dieu. Comment lui, cet homme religieux, avec sa position, sa connaissance, toutes ses vertus, ses qualités réelles sans doute. Le Christ lui dit, tu as besoin d'entrer. Vous voyez, ce n'est pas une parole d'un homme, mais c'est la parole du Christ. Il parle de la part de son Père céleste. Il est lui-même parfaitement Dieu. Et lorsqu'il nous fait sentir ce qui nous manque, il ne le fait pas pour nous condamner, pour nous repousser, pour nous blâmer, mais tout simplement pour nous pousser, nous porter, nous faire prendre conscience que nous devons trouver auprès de Dieu et Dieu seul le salut. Le Christ va lui expliquer que l'homme ne peut pas s'élever vers Dieu, mais que Dieu, dans la personne de son Fils, s'est abaissé jusqu'à nous. Voilà ce que Jésus lui fait comprendre quand il lui dit « Personne ne peut comprendre les choses du ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Il lui fait comprendre qu'il est Dieu fait homme. Il lui révèle quelque chose sur sa personne, sur sa nature. Jésus-Christ n'est pas simplement un homme, simplement un prophète. Il est parfaitement homme, mais il est le Fils de Dieu. Au commencement était la parole, dit la Bible, l'apôtre Jean. Et la parole, n'est-ce pas, a été faite chair. La parole était Dieu, elle était auprès de Dieu. C'est le mystère de la Trinité. Jésus s'est abaissé, il est venu jusqu'à nous pour nous ouvrir le ciel. Puis Jésus n'est pas venu non plus pour nous juger, mais pour nous sauver. C'est ce que le Christ fait comprendre à Nicodème. Le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Sa parole, jamais, n'apporte une condamnation sans remède. Mais c'est toujours une parole qui, pour le cœur qui est désireux de la recevoir, ouvre la porte du salut. Et puis encore, Jésus fait comprendre à Nicodème qu'il veut changer profondément ce qu'il est, changer profondément son cœur. Et que c'est en ce faisant que Dieu nous réconcilie avec lui et rétablit cette communion que le péché, c'est-à-dire nos fautes, nos manquements, nos erreurs, le mal que nous avons pratiqué, parfois sciemment, parfois dans l'ignorance. Voyez, ce mal, immanquablement, il est une barrière entre Dieu et nous. Et c'est là le fond du problème. Et Jésus nous révèle que ce fond du problème, ce problème-là, il est venu pour le régler. Il est venu pour le solutionner. Il est venu pour livrer sa vie en sacrifice sur la croix, pour se charger de nos péchés, pour les porter en son corps sur le bois, de telle sorte que pour l'homme, la femme, le vieillard, le jeune homme, la jeune fille ou l'enfant qui reconnaît cette réalité du péché et se tourne vers Jésus-Christ pour recevoir le pardon, eh bien, il y a possibilité de recevoir immédiatement un salut parfait, total. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quel bonheur, hein, quand le cœur est déchargé du poids de ses fautes, quand le ciel s'ouvre. C'est le don de Dieu, ce n'est pas un petit don. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, le Seigneur. Et ça s'accompagne, cette communion qui est restaurée, ça s'accompagne par un changement profond, par le fait que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, vient faire sa demeure dans notre cœur, et ça le change complètement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lutte, plus de combat, plus de tentation, qu'on devient parfait du premier coup, non. Ça veut dire que Dieu met en nous son principe de vie. Il nous adopte comme ses fils et ses filles. Et ça fait toute la différence. Ça produit en nous ce que toute la connaissance biblique, théologique du monde ne peut pas faire. C'était le cas pour Nicodème. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un théologien pour venir à Jésus et recevoir ça. Même des gens qui ne connaissent rien de la Bible pour venir cet après-midi et le recevoir aussi, bien entendu. Voilà, Dieu ne met dehors personne. Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi, dit le Seigneur. Je pense au témoignage de cet homme qui était encore un enfant. Et il avait suivi lui aussi un enseignement biblique dans des classes d'école. Non, c'était ses parents. Je ne sais plus s'il était allé au catéchisme. Et cet enfant, pendant les premières années de sa vie, a reçu un enseignement régulier. Il connaissait la Bible, il l'aimait. Et à tel point que tout enfant, il lui arrivait de s'agenouiller très régulièrement le soir et de prier. Et il récitait notamment la prière qu'on appelle le Notre Père. Hein? Et il le faisait sincèrement dans son cœur d'enfant. Il y avait de bonnes dispositions. Mais il disait, force était de constater, même dans mon cœur d'enfant, vous savez, un cœur d'enfant, ça prend conscience des choses. Il disait, force était de constater que malgré ses prières, ma vie restait comme sèche. Il n'y avait pas cette communion avec Dieu, cette paix à laquelle j'étais en droit de soupirer. Et cet enfant, je ne sais plus comment, son chemin a croisé par sa famille le chemin d'authentiques chrétiens, des gens qui connaissaient non seulement la lettre de la Bible, mais qui avaient fait l'expérience de l'amour de Dieu, qui avaient fait une véritable expérience dans la communion de Dieu. Et cet enfant a assisté à des réunions d'école de dimanche où on a insisté pour qu'il y ait cette relation personnelle qui se crée. Les enfants étaient enseignés dans ce que la Bible disait, et on enseignait non seulement la lettre de ce qui était écrit, mais aussi le fait que ça a des conséquences pratiques, ça doit avoir des conséquences personnelles pour notre vie. Le fait que Dieu désire devenir notre Père, notre Sauveur personnellement. Et ce petit enfant, là, il a compris ça. Et il dit, quand il est rentré, le soir même, il s'est mis à genoux au pied de son lit, et il a récité toujours les mêmes paroles. Mais il disait cette fois, derrière ces paroles, tout mon cœur y était. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et puis pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, à tous ceux qui m'ont offensé. Bref, toutes ces paroles, il les a prononcées, il disait, mon cœur y était. Vraiment, je réalisais derrière ces paroles que c'était le vœu de mon cœur. Et il dit, mais au moment où je prononçais ces mots, je me suis senti enveloppé de l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui s'est produit, quelque chose qui s'est passé, c'était plus un rite, ce n'était plus une prière que je récitais, mais vraiment, j'avais conscience de m'adresser à Dieu comme mon Père. Et ce petit enfant-là s'est converti, est devenu chrétien ce jour même, et il rapporte que ce jour-là, il a eu conscience que Dieu devenait son Père céleste. Il était né de nouveau. Ce grand changement dont Dieu parlait à Nicodème s'est accompli dans son cœur. Il n'a plus jamais été le même. Ce jeune homme avait un problème sérieux, cet enfant. Il bégayait, il n'arrivait pas à se débarrasser de ce problème, et il dit, c'est même pas lui qui y a pensé. Mais à partir de ce jour-là, il est allé à l'école, il a entendu ses amis lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu bégayes plus. C'était l'œuvre de Dieu. C'était l'œuvre de Dieu. Dieu est capable de faire même au-delà de ce que l'on demande, dans sa souveraineté, dans sa bonté. Alors comment parvenir à ce salut? Qu'est-ce que Dieu explique à Nicodème? Qu'est-ce que Christ explique à Nicodème? Bien, on pourrait parler, pour terminer, de trois étapes qu'on voit dans ce texte. Dans un premier temps, il faut, dit le Christ, venir à la lumière. Vous avez remarqué ce passage? Venir à la lumière. Venir à la lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Christ, d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, va rendre de lui-même ce témoignage, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il dit que celui qui fait le mal et déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Celui qui fait le mal, c'est celui qui, mis dans la présence de Dieu, confronté par l'Évangile à la personne et à l'œuvre de Christ, comprend qu'il y a bien quelque chose, mais refuse de l'appliquer à sa propre vie. Parce que nous avons parlé de cette réalité du péché, du mal, c'est une réalité pour chacun de nous. C'est vrai que c'est humiliant pour le cœur humain de reconnaître ses fautes devant Dieu. Et alors, certains n'en veulent pas. Certains disent, peut-être que c'est vrai, mais moi j'en veux pas. Je ne veux pas reconnaître ça, c'est trop dur. Je refuse de reconnaître ce que je suis. Mais Christ dit aussi, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui agit selon la vérité. Ça ne veut pas dire que celui qui est parfait, celui qui mérite, on l'a bien compris. Même Nicodème ne méritait pas. Celui qui agit selon la vérité, c'est l'homme ou la femme qui a l'humilité de reconnaître que c'est vrai, nous sommes pécheurs. Ce n'est pas simplement une doctrine, c'est une vérité, c'est quelque chose qui est profondément vrai de chacun de nous. Et c'est vrai de manière personnelle. Et voilà, on le reconnaît devant Dieu, on le confesse. Nicodème n'était pas un bandit de grand chemin. Je ne sais pas ce qui, dans son cœur, pouvait avoir offensé et attristé Dieu. Et la Bible, vous le remarquez, ne nous le dévoile pas non plus. Il y a des choses qui ne regardent personne, mais qui sont une affaire entre Dieu et nous. Vous voyez? Mais c'est important de laisser l'œuvre de Dieu se faire en nous, et personnellement, de reconnaître et de lui dire ce que peut-être personne dans notre entourage ne connaît ou ne sait, mais qu'il est important que nous apportions à Dieu. Il a dit, le pardon se trouve auprès de lui, afin qu'on le craigne. Je me souviens aussi de ce témoignage d'un jeune homme dans la ville de Nancy. C'était un jeune homme qui avait grandi dans l'église. C'était un gentil jeune homme. On n'avait rien à lui reprocher. Il était sympathique en plus. Et il était là dans une réunion. Il n'avait pas fait les 400 coups. Il n'avait ni tué ni volé. Il évoluait dans une famille chrétienne. Dans une réunion, le thème de la prédication était... Dieu connaît les cœurs et Dieu nous révèle ce qui est dans notre cœur. Et le prédicateur, ce soir-là, a simplement parlé du fait que Dieu sait ce qui se passe en nous. Il connaît les recoins les plus cachés de notre cœur et il désire nous faire grâce. Et ce jeune homme-là, ce soir-là, sur sa chaise, alors que personne ne le savait, disait « Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Finalement, malgré ma vie morale, eh bien, j'ai besoin que Dieu pardonne tant de choses dans ma vie, que Dieu lave mon cœur, qu'il me purifie. » Et au fond de son cœur, il l'a reconnu, là. Et instantanément, il a connu l'amour de Dieu, il a connu que Dieu le pardonnait, faisait de lui un jeune homme nouveau. Il s'est mis à marcher en nouveauté de vie. Donc, venir à la lumière. Deuxièmement, la foi. Parce que le Christ va montrer à Nicodème que pour connaître cette relation bénie avec Dieu le Père, cette espérance bénie de la vie éternelle, eh bien, il faut croire. Croire en quoi ? Croire en l'œuvre de son Fils. Croire que ce que nous ne pouvions pas produire, nous-mêmes, pour nous sauver, Jésus-Christ l'a accompli pour nous. En mourant sur la croix, il prononcera ces paroles, « Tout est accompli !» C'est-à-dire, le ciel est ouvert, gratuitement, à quiconque l'accepte, à quiconque en reconnaît le besoin, en quiconque en reconnaît le besoin personnellement pour sa vie, à quiconque vient à moi. Nicodème se souviendra de ces paroles. Bien plus tard, lorsqu'il assistera à la mort de Christ en croix, à tel point que, alors que jusque-là il se cachait, vous voyez, ce jour-là il vient à Jésus de nuit, eh bien il demandera la grâce de pouvoir, avec Joseph d'Arimathée, pouvoir être de ceux qui se tiennent là, devant la croix. Publiquement, il affiche sa foi et il accompagnera cet homme, Joseph d'Arimathée, qui pourvoira un sépulcre avant la résurrection. Puis une dernière chose, donc venir à la lumière, croire dans ce que Jésus a fait pour nous, croire en ce qu'il est, croire dans le fait que son œuvre est efficace pour nous ouvrir le ciel, et enfin, eh bien, recevoir le salut, c'est naître de nouveau, c'est recevoir l'Esprit de Dieu, voir l'œuvre de Dieu se produire en nous pour faire de nous ces personnes nouvelles dont nous parlions. Et ça revient à Dieu. Vous voyez, venir à la lumière, ça nous revient. Venir, il faut le faire. C'est à nous, on peut choisir de le faire ou de ne pas le faire. Et puis, croire, ça nous revient aussi. Cette transformation, en revanche, cette nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu. On ne la comprend pas même. Ce que Jésus dira, c'est comme le vent. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas où il va, mais il y a quelque chose de mystérieux quand on vient à Jésus-Christ, quelque chose qu'on ne maîtrise plus. C'est son œuvre à lui. N'aimeriez-vous pas le vivre, le recevoir ? C'est pour vous cet après-midi. Je propose qu'on se recueille quelques instants et que, ensemble, nous invoquions le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour ton grand salut.